J'ai une bonne nouvelle. Les musiciens et les prédicateurs se sont engagés à prendre une douche avant de venir, donc vous n'êtes plus obligé de vous tasser sur les trois derniers rangs. Hein. Non, je dis ça parce que...
Salut.
Allez, go, compte.
Personne ici ne l'ignore, nous avons, il y a déjà maintenant un bon moment, entamé l'étude systématique de la lettre aux Romains. Et nous arrivons aujourd'hui au terme de cette étude, puisque nous en sommes au chapitre 16, qui est également le dernier. Chapitre 16 que je vais lire. Donc chapitre 16 de la lettre aux Romains. Je vous recommande Phébé, notre sœur, ministre de l'église de Cancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Je ne suis pas le seul à être reconnaissant. Toutes les églises du monde païen le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Épénète, prémisse de l'Asie pour le Christ. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui se sont donné de la peine dans le Seigneur. Saluez ma chère Persis qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à vous garder de ceux qui suscitent division et scandale en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces gens-là ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre, et par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs séduisent les cœurs simples. Votre obéissance, en effet, est bien connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux que vous soyez avisés pour le bien et sans compromission avec le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosibatros, mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, dans le Seigneur. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que Cartus, notre frère. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon l'évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ, selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels, mais maintenant manifesté et porté à la connaissance de tous les peuples, païens par des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, pour les conduire à l'obéissance de la foi, à Dieu, seul sage, gloire par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que ça mérite vraiment un commentaire? Parce que bon, vous l'avez entendu, il dit bonjour à ses potes. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Alors, d'abord, ce que je viens de dire de manière un peu cavalière, il y en a beaucoup qui se l'ont dit avant moi et qui le disent encore, et c'est un des textes les plus controversés. Vous savez qu'il y a des gens qui passent leur temps et même parfois leur vie à essayer de démontrer que la Bible n'est pas crédible. Et parmi les textes qui sont mis en cause, celui-là tient une place singulière parce que, alors pour tout un tas de raisons, je ne vais pas développer ici, mais certains disent que ça a été complètement ajouté, d'autres disent qu'en fait ça ne s'était pas adressé à l'église de Rome mais à l'église d'Éphèse. Enfin bon. Et surtout, la principale critique, c'est de dire, mais attendez, Paul annonce aux Romains, d'abord rappelle qu'il n'est jamais allé à Rome, qu'il ne connaît pas cette église, qu'il a une volonté affirmée de leur rendre visite justement pour faire connaissance. Et à la fin de sa lettre, il nous fait le catalogue de tous les gens qu'il faut saluer et qu'apparemment il connaît. Alors comment est-ce qu'on peut connaître autant de monde dans une église où on n'a jamais mis les pieds ? Et dans une ville où on n'a jamais mis les pieds ? Ça, c'est la critique, j'allais dire, la plus facile, en disant, vous voyez bien que c'est inventé de toutes pièces, cette histoire, puisque, par définition, dans une ville où on n'est jamais allé, on ne connaît pas 30 membres de l'église. Sauf que, je vous renvoie à la toute première, enfin aux toutes premières études du début de la lettre aux Romains quand on a fait l'introduction, et c'est pour ça que je m'étais permis de vous dire ne perdons jamais ça de vue, et quand je disais ne perdons jamais ça de vue, c'était à propos du décret de Claude, l'empereur. Décret de Claude qui, quelques années auparavant, avait dit, et je m'étais expliqué à ce sujet, tous les juifs dehors. Donc tous les juifs, c'était les juifs chrétiens et les juifs pas chrétiens. Et donc l'église de Rome, l'église chrétienne de Rome, s'était retrouvée vidée de ses membres juifs et avec simplement les membres issus du paganisme. Bon. Et les juifs qui sont partis, ils ont fait quoi ? Eh bien, ils se sont... Alors, à l'époque, là, ils étaient obligés de voyager, et quand on voyage généralement en bateau, parce qu'à pied, ça fait loin. Et donc ils ont pris le bateau, et il est arrivé où le bateau ? Et bien il est arrivé dans d'autres églises, dans d'autres villes, comme principalement, parce que c'est dans les villes principales, si vous vous faites expulser de New York, vous n'allez pas vous installer à Sperasen, on est d'accord, hein ? Donc vous allez dans une autre ville où vous retrouvez des gens comme vous, donc des gens, enfin, vous cherchez une ville, et c'est pas difficile à trouver, où il y a déjà des églises chrétiennes, enfin bon, bref. Et donc, les deux principales villes qui ont accueilli les chrétiens chassés de Rome, ben c'est les grandes villes de l'époque, en dehors évidemment de la capitale de l'Empire, c'est Corinthe et Éphèse. Et donc, du coup, tous les juifs chrétiens qui ont été de force exilés à Corinthe et Éphèse pour un temps, c'est-à-dire jusqu'à ce que le décret de Claude soit aboli, eh bien, tous ces gens-là, ils ont vécu une période de leur vie, quelques années en tout cas, à Éphèse et à Corinthe, et là, effectivement, ils ont rencontré, alors pas seulement des gens qui connaissaient Paul, mais Paul lui-même. Et donc, c'est pas du tout étonnant, en réalité, il n'y a pas du tout d'incohérence là-dedans. Une fois que eux sont repartis, et c'est notamment le cas, puisqu'on les connaît, enfin, ils sont plusieurs fois cités, un certain nombre de fois cités dans les textes bibliques, Prisca et Aquilas, qui eux vont subir le décret de Claude qui les expulse de Rome, et qui vont successivement s'installer à Corinthe et à Éphèse, justement, et là, vous le savez, ils vont faire connaissance avec Paul. Et donc, tous ces juifs, alors y compris, je sais bien qu'on est un peu en décalage à notre époque, mais les juifs et leurs esclaves parfois, parce que dans les noms qu'on a cités, il y a des noms d'esclaves. Donc avec leurs esclaves, ils sont partis puis revenus à Rome, donc Paul les connaît tous ces gens-là, et c'est normal. Et il a noué avec eux pendant leur séjour plus ou moins long, on n'a pas de précision à ce sujet, mais à Corinthe ou à Éphèse, il a noué des liens qui ne se sont pas perdus, et quand il écrit à l'église de Rome, bien que disant « je n'ai jamais mis les pieds à Rome, je ne suis jamais venu chez vous, j'ai hâte de faire connaissance avec tous les autres, mais il y en a déjà beaucoup que je connais », et là il en cite une trentaine. Donc c'est pas incohérent du tout. Bon, après, Paul dit bonjour aux gens qu'il connaît, et encore une fois, ça n'appellerait pas de commentaire particulier. Moi, je trouve que ça nous donne quand même, ce texte, si vous permettez, ça nous donne trois leçons. Alors, ce matin, il faut qu'on soit bref, puisqu'on fait un autre truc après, mais je vais quand même prendre le temps de dire en quelques mots quelles sont les trois leçons que je retiens. La première, ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on étudie la lettre aux Romains, ça pourrait très largement s'appeler Introduction à la théologie évangélique, ou ça pourrait s'appeler Manuel d'éthique ou Précis de théologie pratique, enfin ce que vous voulez. Autrement dit, il y a dans ce livre un bouquin de théologie, c'est clair. Et aujourd'hui, quand on écrit un bouquin de théologie, on ne fait pas à la fin le catalogue de tous les potes qu'on a à tel ou tel endroit. Ça enlèverait presque du sérieux à l'ouvrage qui se veut académique. Sauf que là, Paul, il nous donne une leçon. Et il nous dit, l'Église, et si je devais dire qu'une phrase ce matin, ce serait celle-là, mais je la dis avec gravité, l'Église, c'est pas de la théologie, c'est d'abord des relations. C'est d'abord des relations. C'est d'abord de l'affection. Paul, qui a dit, et je vais y revenir tout à l'heure, voilà ce que vous devez croire, voilà ce que Dieu a fait pour les hommes, voilà comment il a fait la preuve de son amour infini. Il dit, après, sur les détails, et on l'a étudié précédemment, sur les détails, on n'a pas besoin d'être tous pareils. Mais embrassez-vous, embrassez-vous. Il y en a, parce que, il y en a qui sont juifs et il y en a qui ne sont pas juifs. Alors évidemment, ça induit des comportements différents. Ben, par exemple, pour les fêtes. Le calendrier juif, ben, y a des jours où il ne faut pas faire ci, ben, déjà il y a le sabbat. Les chrétiens d'origine païenne, ça ne leur parle pas. C'est pareil pour la nourriture, il y en a qui mangent. Les chrétiens d'origine païenne, ils mangent de tout. Ah oui, mais les autres, ils ne mangent pas de tout parce que Moïse, il a dit qu'il y avait les animaux qu'on pouvait manger, les animaux qu'on ne peut pas manger. Embrassez-vous. Embrassez-vous par un saint baiser. Et n'essayez pas un nivellement artificiel, c'est-à-dire, ah bah du coup, nous on est juifs, mais on va quand même se forcer à manger des trucs qu'on ne mange pas parce qu'il faut faire comme tout le monde, ou bah, le jour du sabbat, on va quand même essayer de... Non, 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 ne reniez pas ce que vous êtes, mais embrassez-vous. Et les autres qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais fêté le sabbat de leur vie, pour qui tous les jours se ressemblent et pour qui les fêtes juives, c'est complètement, ça leur est complètement étranger, ne faites pas semblant. Restez ce que vous êtes, mais embrassez-vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, tout à l'heure, qui chantent debout avec les bras en l'air. Ceux qui restent assis, ne vous forcez pas à vous lever et à lever les bras. Et ceux qui font ça, ne vous... forcez pas à rester assis avec les bras croisés. Embrassez-vous. Embrassons-nous avec nos différences. Paul, qui passe généralement pour un théologien froid, parce que, étonnamment, on associe les théologiens, les dogmaticiens, à des gens, j'allais dire, qui sont sans sentiments, qui sont des intellectuels. Paul n'est pas un intellectuel pur et dur. La preuve, c'est qu'il finit sa lettre en disant « Mais voilà la liste des gens pour qui j'ai une affection profonde. Embrassez-les. » Et Paul va dire « Mais... parce que Paul, il sait de qui il tient ses convictions. Il tient ses convictions de quelqu'un qui a dit « Les gens verront que vous êtes mes disciples si vous arrivez à vous mettre d'accord sur une confession de foi. » Non, 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 il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous vous aimez les uns les autres, après, vous mangez de tout, vous ne mangez pas de tout, vous considérez que tous les jours se ressemblent, vous chantez debout, vous chantez assis, on s'en fout, embrassez-vous. Et quand il s'agira de parler aux Corinthiens, ou plutôt d'écrire aux Corinthiens, qui eux sont pas très branchés théologie, mais par contre ils aiment bien tout ce qui est spectaculaire, le parler en langue, le machin, le truc, la prophétie. Il dit, mais si j'ai pas l'amour, je peux avoir tout ça, je fais du bruit. embrassons-nous. Embrassons-nous, et j'allais dire, faisons l'effort, parce que je vous avoue que ça ne m'est pas naturel. Faisons l'effort d'aller vers ceux qui sont différents, d'aller vers ceux qui ne mangent pas les mêmes choses que nous, qui ne vivent pas les choses de la même manière que nous, mais ce qui nous unit est tellement plus important. La première leçon, c'est celle-là. C'est bien de faire de la théologie à longueur de page, mais n'oublions pas de nous embrasser. Deuxième remarque, c'est que, et là, j'aborde un sujet délicat, si on lit avec honnêteté ce chapitre 16, on est bien obligé d'admettre, même si c'est contrariant, que les hommes ont joué un certain rôle aussi dans l'église de Rome. Non, je dis ça de manière humoristique, parce que ce qui est criant là, c'est que c'est les femmes qui font tourner la boutique. Prenez tous ceux, alors non, justement, toutes celles dont on dit elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur, et bien c'est les femmes. Alors, je vais être très lâche, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre parti, mais il y a une controverse, enfin, évidemment, comme toujours dans ce genre de situation, il y a une controverse sur le sens des mots. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux mots délicats. Alors, délicats, non pas parce qu'on a du mal à les comprendre, mais délicats parce qu'il faut savoir ce qu'on met derrière. Alors, les deux mots, c'est, en grec, diakonos. Diakonos, ça veut dire être au service de. C'est ce qu'a donné diacre. Et puis, il y a apostolos, qui veut dire envoyé. Alors, pourquoi est-ce que... Et donc, on sait très bien ce que veulent dire ces mots, donc ce n'est pas là qu'est la difficulté. La difficulté, c'est de savoir s'il faut les comprendre au niveau du langage courant ou au niveau institutionnel. J'entends par là que être au service d'eux, alors parfois on traduit serviteur, servante, ça c'est le langage courant. Et puis, comme vous le savez, l'Église a fait une institution, entre guillemets, c'est-à-dire a fait des diacres ou diaconesses, puisque le mot diaconos il est neutre, il n'est pas plus féminin que masculin ou l'inverse, a fait une catégorie à part. Donc quand on dit de quelqu'un diaconos, et là c'est dit de Phébé, est-ce qu'il faut simplement comprendre elle est au service de, en l'occurrence l'église de Cancrée étant l'un des ports de Corinthe, hein, ou bien est-ce qu'elle fait partie institutionnellement d'un groupe de personnes qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les diacres, puisqu'on traduit directement, auquel cas, ça la met dans une catégorie à part. Même chose pour envoyer. Envoyer, c'est un mot du langage courant en grec, mais on le sait, et là, c'est Jésus lui-même qui a institué les envoyés, c'est-à-dire en les choisissant, et quand Paul dit « moi, je suis envoyé », il revendique un statut. Il dit « et puisque je fais partie des envoyés, des apôtres, puisque moi aussi, comme les douze, Dieu s'est mis sur mon chemin en disant bah, « tu vas changer de direction et dorénavant c'est moi qui t'envoie, et c'est moi qui t'envoie avec une mission particulière », donc ça, Paul dit « il a fait de moi un apôtre », et donc avec le statut qui va avec, puisqu'il dit même « puisque je suis apôtre, puisque j'ai ce statut, j'aurai le droit, moi aussi, d'emmener avec moi une personne pour m'aider. » Donc, à chaque fois qu'on lit, puisque ça s'est institutionnalisé, mais progressivement, notamment pour les diacres, à chaque fois qu'on lit un de ces deux mots-là, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir si c'est institutionnellement quelqu'un d'à part, un diacre ou un apôtre, ou bien simplement quelqu'un qui est au service d'eux ou quelqu'un qui a été envoyé. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Ben, je dis ça parce que... alors, le problème se pose, mais encore une fois, je ne vais pas prendre parti, je laisse à chacun le soin de se faire une conviction. Le problème se pose pour deux personnes. Donc Phébé, la première. Alors Phébé, Si Paul prend la peine de dire qui c'est justement parce qu'elle ne fait pas partie, parce que sinon, si je vous écris de loin en disant « saluez Luc », je ne vais pas prendre la peine de vous dire qui est Luc, ce qu'il fait dans la vie, bon, etc. Là, pourquoi est-ce que Paul prend la peine de dire « je vous recommande Phébé, qui est diaconesse, comme on veut, ou au service de l'église de Cancrée ?» Ben, parce que précisément, elle est membre de l'église de Cancrée, et pas de l'église de Rome. Et alors me direz-vous, mais qu'est-ce qu'elle fait à Rome? Ben, tout simplement, elle a amené la lettre. Puisque Paul est à Corinthe. Paul est à Corinthe, et si vous vous souvenez de ce qui a été dit la dernière fois, Paul est à Corinthe, et il a deux choses à faire. Il a deux choses devant lui. Il a, un, envoyé cette lettre, qui est plus qu'une lettre, c'est-à-dire un traité de théologie, à Rome, pour enseigner les chrétiens de Rome, et il a une cagnotte à emmener à Jérusalem, puisqu'il a fait, une levée de fonds pour Jérusalem, et donc il faut amener ce petit pactole aux apôtres de Jérusalem. Et donc, Paul écrit aux Romains, on l'a entendu la dernière fois, je voudrais bien venir chez vous tout de suite, mais il faut d'abord que j'aille à Jérusalem pour porter la cagnotte. Et donc, comme, selon lui, le précis de théologie ne peut pas attendre, parce qu'il pourrait dire bah, je vais passer chez vous quand j'irai en Espagne, et puis j'aurai un petit fascicule à vous remettre pour que vous sachiez où vous en êtes. Non, c'est plus important que ça et plus urgent. Donc il va envoyer Phébé, qui est corinthienne, donc, enfin, du port de Corinthe, donc de Cancrée, et il va lui dire bah, tu vas amener ça à Rome. Et moi, je vais porter la cagnotte à Jérusalem. Parce que, me direz-vous, il ne faut pas confier de l'argent à une femme, sinon elle le dépense. Non, ce qui est important, et ce qui est sérieux, c'est que effectivement, cette Phébé, elle est... il ne l'a pas prise au hasard, enfin, il ne l'a pas attrapée... au hasard, en disant, bah tiens, toi, si tu fais rien, parce que, ça aussi, on l'a entendu la dernière fois, organiser un voyage comme ça, c'est toute une logistique. Ça suppose évidemment une confiance absolue dans la personne, mais ça suppose aussi, parce qu'on n'est pas au 21e siècle, donc il ne suffit pas de prendre un billet d'avion sur Internet, ça suppose un sens de la logistique appuyé. C'est compliqué de se déplacer à l'époque. Et donc, ça suppose non seulement une confiance absolue, mais ça suppose quelqu'un qui en soit capable. Et Phébé est jugée par Paul, et pourtant c'est une femme, capable de faire ça, au point que, et quand je parlais de logistique, vous voyez à quel point je ne me trompe pas, au point que, il va écrire aux Romains, alors accueillez-la, parce que c'est pas rien ce qu'elle a fait, et surtout, mettez-vous à sa disposition, on parle toujours d'une femme, hein, mais on est à Rome, on n'est pas à Jérusalem, ça n'a rien à voir. Mettez-vous à sa disposition pour tout ce dont elle aura besoin, c'est-à-dire une fois qu'elle va arriver, ben, elle a besoin, comme tout le monde, d'hébergement, et puis elle a besoin de luxe et, je ne vais pas dire amusé, mais nous a donné des données chiffrées, et actualisé en termes de coût de ce genre de voyage, c'est colossal, effectivement. Et donc, Phébé, si elle veut repartir à Cancrée, ben, il faut lui trouver une place sur un... Enfin, il faut lui trouver l'hébergement, la place sur le bateau. Bon, bref, je ne m'étends pas. Mais cette Phébé, Paul demande aux chrétiens de Rome de veiller sur elle, et il dit, et c'est pas rien... Elle a été, alors, du coup, ça met en relief ce qu'il dit. Je vous recommande Phébé, donc pas seulement je vous recommande accueillez-la avec le sourire, c'est je vous recommande Phébé, donc là on traduit ministre, mais en fait c'est donc diaconos de l'église de Cancrée, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, elle vient d'ailleurs, hein, donc accueillez-la, et accueillez-la concrètement, c'est-à-dire donnez-lui un toit pour dormir et à manger dans son assiette. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Alors, là encore, le mot protectrice mériterait de longs développements que je ne vais pas faire, je vous rassure, mais c'est le terme, en tout cas, induit, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, induit le fait que c'est une femme qui exerce les responsabilités. Certains traduisent par patronesse, parce que c'est effectivement, il y a l'idée de patron là-dedans. Et donc, c'est une femme qui exerce des responsabilités, parce qu'effectivement, vous ne confiez pas ce genre de mission à n'importe qui, c'est une mission difficile, compliquée, voire risquée, parce que vous savez que Paul, à chaque fois qu'il prend le bateau, il n'a pas de bol, les éléments se déchaînent, et donc à chaque fois, il croit qu'il va y passer. Donc, il faut du caractère. Et donc, c'est une femme de caractère. Et il dit à l'église de Rome, occupez-vous d'elle, prenez-en soin. Et mettez-vous à sa disposition. Vous faites ça à Jérusalem, on vous répond dans la seconde, il n'est pas question de se mettre à la disposition d'une femme. Mais on est à Rome. Et tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire évidemment que la place de la femme, elle n'est pas du tout appréhendée de la même manière selon qu'on est en Orient ou en Occident. En Occident, dans la grande ville qu'est Rome, en plus, une femme et un homme, c'est équivalent. La culture gréco-romaine, c'est de ne pas faire la différence entre les hommes et les femmes. Paul n'a aucun problème avec ça. Par contre, quand on se tourne vers Jérusalem, là, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est lui qui amène la cagnotte et pas l'inverse. Bon. Ce que je veux dire, c'est que y a, à mon avis, deux extrêmes dont il faut, parce que la deuxième femme dont il est question, qui pose problème, déjà qui pose problème parce qu'on n'est pas sûr que c'est une femme, c'est Junias. Alors Junias ou Junia, selon la manière dont vous l'avez lu, parce que en plus c'est à l'accusatif, donc on ne sait pas, bref, peu importe. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, mais surtout les deux. Alors le fait qu'il soit mis en doublon fait plutôt pencher vers l'idée que c'est une femme, parce que on dit Prisca et Aquilas, et là on dit, du coup j'ai oublié le nom du mari. Andronicus, voilà. Andronicus, c'est positionné pareil. Donc il y a quand même de fortes présomptions pour que ce soit un couple. Et on dit apôtre. Alors, si vous voulez, je ne reviens pas sur ce que je disais à l'instant. On dit envoyé. Ce sont des envoyés. Et des envoyés éminents en plus. Des envoyés distingués. Il y a un terme qui veut dire, comment c'est traduit ici ? Ce sont des, alors là, on traduit, ce sont des apôtres éminents et qui ont même appartenu à Christ avant moi. Bon, alors, tout ça pour dire que y a deux extrêmes de lecture radicale, et je pense que, comme souvent, la vérité est entre les deux. Il y a ceux qui disent, non, mais faut pas se laisser emballer par ça. Phébé, c'est une simple servante, elle est au service d'eux, donc c'est une servante. Alors certes, elle porte la lettre, mais bon, il n'y a pas de quoi non plus en faire une pendule. Et puis les deux autres, ils sont envoyés, alors d'abord, c'est pas sûr que ce soit une femme, et ils sont envoyés au sens le plus banal du terme, donc ça ne leur confère pas du tout le statut d'apôtre. Donc ça, c'est extrême d'un côté et extrême de l'autre. Là, c'est la position, j'allais dire, féministe, radicale. C'est effectivement Phébé, c'est une diaconesse et c'est pas n'importe quelle diaconesse parce que le fait de prendre cette responsabilité d'organiser le voyage et le fait qu'on dise aux Romains mettez-vous à sa disposition, bon, etc. Et puis cette lettre, elle s'est pas contentée de la porter. Alors là, on extrapole parce qu'on n'en sait rien. Mais elle l'a aussi commenté, elle a donné des explications, elle a répondu aux questions. Donc en fait, les deux autres là, dont Junia, qui à ce moment-là est une femme, c'est vraiment des apôtres, puisque Paul, non seulement, alors il y a les douze au départ, ça c'est bien, hein, après Paul dit, affirme son statut d'apôtre, mais il parle aussi de Jean, notamment de Timothée par exemple, en employant le terme apôtre. Et donc, ça suppose une compréhension extensive du statut d'apôtre, c'est pas que les douze plus Paul, c'est aussi je ne vais pas dire tout un tas de gens, mais aussi un certain nombre de gens, et disent les plus radicaux dans cette lecture, on va dire féministe, du texte. Et la preuve, c'est qu'il y a même une Junia qui est apôtre, et qui pourtant est une femme, avec le statut d'apôtre et tout ce que ça confère de capacité d'exposer. Bon, bref, chacun se positionne comme il veut. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire quand on a lu honnêtement ce chapitre 16 de la lettre aux Romains, c'est que dans l'Église des premiers temps, les femmes sont juste là pour servir le café. Ça, c'est pas vrai. Elles ont une place, et une place essentielle. Parce que, et c'est mon troisième point, j'avais dit que je serais court, hein. Quand il s'agit de moi, vous savez qu'il faut relativiser. C'est le troisième point. Comment est-ce qu'on est distingué aux yeux de Paul? On est distingué parce que, effectivement, dans la liste, si on veut faire des mathématiques, il y a plus d'hommes que de femmes. Sauf que, quand Paul salue les femmes, il dit « Elle travaille, ou elle a travaillé. » j'ai parlé de Phébé, qui, elle, apporte la lettre. Prisca et Aquilas, alors eux, on les connaît, et on les connaît par ailleurs. C'est-à-dire que Prisca et Aquilas, c'est-à-dire un couple, là, on sait, il n'y a pas de doute sur le genre du prénom. On sait que c'est un couple, et on sait que ce couple a joué un rôle essentiel, parce que le plus grand intellectuel de l'Église première après Paul, c'est, vous le savez, Apollos. Et Apollos, qui était effectivement déjà au départ très bien équipé intellectuellement, il va se convertir à la foi chrétienne, et il se trouve que c'est Prisca et Aquilas qui vont compléter, c'est comme ça que la Bible s'exprime, compléter ses connaissances sur... Ils lui exposèrent encore plus exactement ce qu'était la doctrine de la foi. Donc, le couple, et faites-moi confiance, si ça n'avait été que l'homme dans le couple, il n'y aurait jamais eu la moindre mention de Prisca. Le couple va enseigner, et ça c'est indéniable, c'est écrit comme ça, va enseigner Apollos, lequel Apollos deviendra un des principaux enseignants de l'Église première. Donc Prisca et Aquilas, bon, et après, si on continue, alors ceux de qui on dit... compagnons, très bien. Tryphène et Tryphose, qui se sont donné de la peine dans le Seigneur, saluez ma chère Persis, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur, celles, puisqu'encore une fois, là, c'est exclusivement féminin, celles dont on dit, parce que là, c'est traduit beaucoup de peine, le verbe, c'est qu'il y a beaucoup travaillé. Celles dont Paul dit, elles ont travaillé, ce sont les femmes. Alors, travailler comment? Travailler comme les femmes savent le faire, c'est-à-dire pas en se mettant en avant. Pas en se mettant en avant, mais en faisant le boulot. Et il y a un autre terme, je ne veux pas être trop long, mais il y a un autre terme sur lequel je veux m'arrêter. Alors c'est le terme qui est traduit par collaborateur. Vous avez entendu plusieurs fois revenir le terme collaborateur. En grec, le terme est plus riche que ça. Alors, c'est synergoi, mais peu importe. Enfin, peu importe, non, parce que de synergoi, on a fait en français, pour ceux qui connaissent l'entreprise et son vocabulaire, on a tiré synergie. Alors, synergie au lieu de synergoi, parce que par une bizarrerie, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, la lettre qu'on appelle en français le I grec, c'est en réalité le U grec. Bizarrement, on appelle Y ce qui dans l'alphabet grec est le U. Donc c'est pour ça qu'on dit de psyché, on a fait psychique. Bon, mais peu importe. Donc, synergoi qui a donné synergie. C'est quoi la synergie, pour ceux qui n'ont jamais connu les séminaires d'entreprise? C'est le fait de mettre en phase les énergies de plusieurs individus pour les démultiplier. Vous voulez, pour dire les choses alors très bêtement, si on a deux poutres à transporter et qu'on est deux, plutôt que de transporter chacun sa poutre, c'est beaucoup plus efficace de prendre une poutre à deux, de faire le trajet, et après de prendre la deuxième poutre à deux. Ça va 10 fois plus vite et ça demande 10 fois moins d'effort que de prendre chacun sa poutre et de se débrouiller à essayer de la traîner jusque... Voilà. La synergie, c'est aussi simple que ça. Pour ceux que ça intéresse, Proudhon a analysé ça. Bon, bref. Ça veut dire quoi? Parce qu'on est là pour savoir quelles leçons on peut tirer de ça. Ça veut dire que quand on met ensemble nos efforts, et c'est ça que Paul nous dit. Paul qui passe pour un, pas pour un loup solitaire, mais pour un solitaire. C'est-à-dire, Paul, c'est quelqu'un d'à part, que personne d'autre. C'est pas vrai. C'est un gars qui travaille en équipe. Si on prend la peine de regarder les textes attentivement, on s'aperçoit que Paul, il fait rarement les choses tout seul dans son coin. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'entendre sur le terme, ceux qui l'aident, c'est-à-dire ceux qui sont en synergie avec lui, il ne les traite pas comme des inférieurs. Il dit, c'est mes collaborateurs, mais au sens de la synergie, c'est-à-dire c'est ceux qui ont joint leurs efforts aux miens pour un résultat, pour une efficacité décuplée. Et ce que Paul nous apprend là, c'est que l'Église, c'est ça. C'est que si on se met ensemble pour faire quelque chose, alors pas tous ensemble, puisque là, Paul montre bien que c'est avec les uns et les autres, il dit mon collaborateur, alors pour une mission précise, quand Paul s'adjoint le concours, puisque c'est comme ça qu'il faut le vivre, encore une fois, ce n'est pas une question de supériorité et d'infériorité, mais quand Paul s'adjoint le concours de quelqu'un pour réaliser une mission particulière, ça décuple l'efficacité. Apprenons à faire les choses ensemble. Et apprenons, comme Paul savait très bien le faire, et la preuve c'est qu'il fait la liste de ses collaborateurs en disant ben, « eux, ils m'ont bien aidé », apprenons à aller vers ceux qui savent. Si un jour il me vient l'idée, ce qui m'étonnerait fort, mais de m'inscrire sur la liste des visiteurs de prison, ben, je vais me tourner vers Tahar et je vais lui dire « bon, dis-moi comment on fait ». Je ne vais quand même pas y aller tout seul en faisant comme s'il n'existait pas, comme s'il ne faisait pas ça depuis 10 ans ou 15 ans, et en disant, bah, moi, je vais me débrouiller parce que lui, c'est lui et moi, c'est moi. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui savent faire. Faisons ensemble. Ça, c'est aussi ce que Paul... Et ce qui apparaît en filigrane dans ce chapitre 16, c'est que, évidemment, on prête à Paul, et à juste titre, un abattage de boulot pour le Seigneur et pour Dieu lui-même, colossal, mais c'est aussi parce que Paul sait se démultiplier à travers les autres, et c'est parce qu'il sait utiliser au mieux, et je pourrais entrer dans les détails, mais c'est très instructif et très intéressant de voir comment il veut, notamment avec Barnabas, parce que Barnabas est chypriote, il y a des choses que Paul conçoit en disant ben, « je vais m'associer avec tel ou tel dont les compétences ajoutées aux miennes vont produire une efficacité qu'aucun des deux séparément, auquel aucun des deux séparément ne pourrait prétendre » et c'est comme ça que ça fait avancer les choses. Alors, bon, voilà les trois remarques que je voulais faire. J'en fais encore deux et après je vous promets je m'arrête. J'en fais encore deux parce qu'il n'y a pas que les salutations, vous l'avez noté dans ce chapitre. Il y a aussi plus qu'une invitation, une injonction de se séparer radicalement de ceux qui tout simplement ne partagent pas la même foi. Et il fait bien la différence. Autant il dit, ceux qui ne mangent pas la même chose que vous, embrassez-les, je n'y reviens pas, j'ai dit ça tout à l'heure. Ceux qui fêtent des jours qui vous sont, enfin vous, ça vous est égal, et eux, c'est une fête, ils mettent ça à part, embrassez-vous. Autant ceux qui ne partagent pas l'exposé que je viens de faire sur ce que Dieu a fait pour nous au travers de son Fils, alors là, pas question de les embrasser. Là, ceux-là, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce que l'Église, ça ne peut pas. J'avais déjà comparé ça avec une maladie, avec une tumeur maligne. Ceux qui ne mettent pas le Christ à sa juste place dans ce que nous sommes et ce que nous croyons, alors dehors. Là, il a cette formule. Alors en grec, c'est encore plus. Là, on dit « Soyez avisés pour le bien et sans compromission avec le mal. » C'est-à-dire, alors, on peut traduire ça autrement, « Soyez simples pour le bien, soyez directs pour le bien, soyez sans mélange, c'est-à-dire ne vous mélangez pas avec le mal. » Et là, il vise très clairement ceux qui ont un enseignement différent. Et effectivement, l'Église a toujours été, à toutes les époques et dans tous les lieux, menacée par simplement par une hérésie qui consiste à ne pas mettre le Christ à sa juste place. Et ça, il faut être sans compromission avec ça. Et la dernière, et là j'ai fini, je vous le promets, dernière remarque que je voulais faire, c'est que dans sa... Le terme est technique, mais ça s'appelle comme ça, dans sa doxologie, c'est-à-dire dans ce qu'il dit à la fin, il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est qu'il dit que, en fait, il n'y a que Dieu qui est sage. Il n'y a que Dieu qui est sage, ça veut dire que... Alors, parce que moi, j'ai été longtemps choqué parce que Paul écrit aux Colossiens à propos de la philosophie. Alors, vous le savez sans doute, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. Philosophie. Et donc, il dit que généralement, c'est traduit par creuse du prix. Enfin bon, il n'en dit pas du bien. Et moi, ça m'embêtait beaucoup, parce que j'aime bien la philosophie. Et je trouvais qu'il était sévère avec cette discipline. Mais en fait, effectivement, après l'exposé qu'il fait, et ce sera ma conclusion ce matin, il dit, si on y réfléchit bien, la sagesse, au sens où les philosophes grecs l'entendent, c'est-à-dire la quête du sens. La réponse à la quête du sens, elle n'est qu'en Dieu. Il n'y a que Dieu qui répond à cette aspiration des hommes à comprendre ce qu'ils font là, pourquoi toutes les grandes questions, qui suis-je, où vais-je, que fait la police, bon... La quête du sens, qui même si on n'est pas tous philosophes, habite tous les hommes. La quête du sens, elle ne trouve sa réponse qu'en Dieu seul. Et en Dieu seul, dans ce qu'il a fait, et Paul vient d'en finir l'exposé exhaustif, c'est-à-dire le don de son Fils pour le salut des hommes. Le sens absolu, il est là. Et donc, en dehors de ça, notre société qui est maintenant majoritairement athée, c'était la nouvelle de la semaine dernière, 51% des Français ne croient pas en Dieu, notre société qui est majoritairement athée cherche, évidemment, parce que c'est le propre de toute forme d'humanité, de chercher le pourquoi et qu'est-ce qu'on fait là. Et ce que Paul affirme en conclusion de son livre, c'est que après avoir exposé la doctrine de la foi de manière, convenons-en, exhaustive, il dit, mais la réponse à la quête du sens, elle est là et là seulement. Ce qui donne, et là je me parle à moi parce que c'est pas quelque chose qui m'est particulièrement naturel, mais ce qui donne aux chrétiens la responsabilité de partager ça avec ceux qui les côtoient, Parce qu'il faut, même si ça ne paraît pas évident, et même si on passe pour des crétins absolus, quand on parle de Dieu, et quand on parle de la foi, et quand on parle du Christ, on est souvent accueilli avec des sourires narquois. N'empêche que, au fond des gens qui sont en face de nous, il y a ce même questionnement, parce qu'il est universel, et surtout, il n'y a qu'une réponse. Et cette réponse-là, elle est en Dieu.